France Info.
France Info, les informés, Guillaume Caour.
Les informés de France Info jusqu'à 21h, même au mois d'août, très heureux de vous retrouver avec l'un des thèmes de l'actualité aujourd'hui, la loi travail, la concertation qui a donc repris aujourd'hui au ministère du Travail, avec notamment l'un des points très sensibles qui est le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. Est-ce que cela pourra doper l'emploi? Nous allons en parler dans quelques instants. Mais d'abord, nous allons parler de François Hollande qui envoie une carte postale empoisonnée à son successeur. Les informés ce soir, Aude Rossigneux, journaliste politique. Bonsoir.
Bonsoir.
Christophe Madrol, élu pour l'Union des démocrates et écologistes à Marseille. Bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro.
Bonsoir.
Et Franck Boisize, journaliste économique à Libération.
Bonsoir Guillaume.
Bonsoir à tous les quatre. Vous êtes les informés du soir. C'est donc le petit cadeau de la rentrée que François Hollande a envoyé à son successeur. L'ancien président de la République est sorti de son silence il y a quelques heures, et donc le jour de la reprise de la concertation sur la loi travail, pour souligner que, grâce à lui, la situation économique du pays s'est améliorée.
Je veux simplement évoquer les chiffres qui ont été publiés ces derniers jours en matière notamment de création d'emplois, en matière d'investissement, en matière de croissance, en matière même de rentrée fiscale. Et moi je souhaite que ce mouvement soit d'abord reconnu, et c'est de plus en plus le cas, pour les mesures que nous avons prises le moment opportun. Et puis ensuite que ce mouvement puisse se poursuivre, qu'il ne soit pas enrayé, qu'il ne soit pas gêné, qu'il ne soit pas freiné.
Et il ajoute qu'il ne faut pas plus flexibiliser le travail que ce qui a déjà été fait, que le risque c'est de créer des ruptures. Je vous vois sourire, un sourire malicieux, Christophe Madrol.
Malicieux, je ne sais pas. Je trouve que le président Hollande a raison de se rappeler au bon souvenir du président Macron.
Pourquoi ?
Nous avons vu dimanche dernier, alors que le journal du dimanche donnait un satisfecit au président Hollande et à la politique économique qu'il a menée. Et c'est normal que le président Hollande revienne en disant « Attention, la politique que j'ai portée pendant 5 ans porte ses fruits aujourd'hui. Il ne faudrait pas que le président Macron oublie tout ce que j'ai fait pour lui. » Donc, the boss is back, et c'est très bien. Je pense que François Hollande a raison de dire qu'il a fait un bon travail. Vous savez que j'ai soutenu François Hollande. Je continue à penser que ce qu'il a fait pendant 5 ans, il y a eu des erreurs de communication, certes, mais il a porté effectivement une vraie politique économique qui donne ses fruits aujourd'hui.
Signe, le moment est bien choisi quand même. Symboliquement, le jour de la reprise
oui,
de la concertation sur
l'agenda,
la loi travail.
Il est quand même, c'est pas un perdreau de l'année. Il connaît un peu la politique. Il en a fait même c'est avant d'être
hasard,
président. Ceci, c'est un hasard. C'est quand même, ça tombe quand même rudement bien. Non, je pense pas que ça soit un hasard du tout. Je pense qu'il a, bien soigné sa com. Il a toujours été plutôt un bon communicant. Et donc, il envoie une petite fléchette en plein milieu du front d'Emmanuel Macron le jour où il reçoit, enfin où il commence ses consultations au moment de la loi travail. Bien sûr, c'est évidemment choisi.
Oui, je vous vois, Marion Mourgue, vous voulez rebondir ?
Oui, parce que François Hollande avait annoncé après l'élection d'Emmanuel Macron qu'il ne commenterait pas l'action de son successeur justement pour ne pas gêner Emmanuel Macron. Et donc là,
il fait tout l'inverse.
Exactement. Et le fait qu'il le fasse du festival d'Angoulême, qui est quand même le lieu le plus improbable pour parler de la réforme du Code du travail, ça montre quand même une double signification à son message à la veille en plus de la
double
rentrée.
Double signification ? Laquelle ?
C'est la volonté d'envoyer une carte postale, vous le disiez, donc de se rappeler au souvenir de son successeur, et puis d'envoyer un message politique en disant il va peut-être falloir compter encore sur ma parole, parce que dès demain, il y a les socialistes les socialistes pro-Hollande qui se réunissent à La Rochelle. Donc il y a aussi la volonté de dire Hollande est toujours là.
Un petit rassemblement, voilà. C'est plus tout à fait les universités
d'été. C'est plus le même rassemblement, mais toujours présent.
Franck Boisize, il y a plusieurs choses dans ces déclarations. Il y a l'avertissement sur les limites à ne pas dépasser. Et puis, on a aussi cette impression qu'il y a un besoin de reconnaissance.
Ou d'existence, tout simplement.
Ou d'existence.
Besoin d'existence, mais en même temps, comme François Hollande, je crois que c'est un euphémisme de le dire, est un fin stratège, il serait peut-être intéressant de se demander si finalement, en lâchant ce petit pavé dans la mare, il n'a pas envie de susciter quelques vocations de frondeur chez quelques députés de La République En Marche qui ont déjà modérément apprécié la réduction des contrats aidés. Est-ce qu'il n'a pas envie de souffler un peu sur les braises ?
Vous pensez que c'est
complètement raison. Je pense qu'effectivement, c'est très stratégique de sa part.
Christophe Madrol.
On voit les doutes chez certains parlementaires aujourd'hui par rapport à la loi travail. Et tu as raison, Franck, de le pointer. On voit les doutes qu'il y a aujourd'hui. On a vu tous l'été, des frondeurs, entre guillemets, dans le camp de la République En Marche.
Des bébés frondeurs.
Des bébés frondeurs. Ouais,
enfin, c'est des frondeurs.
Mais du coup, ce doute, c'est ça, c'est ce qu'il dit, c'est de dire la France va mieux, inutile de réformer en profondeur.
Ah non, il ne dit pas ça. Il dit attention, n'allons pas trop loin. J'ai fait des choses, j'ai posé des jalons. Il rappelle aussi qu'il est de gauche. Il rappelle aussi qu'il a une ambition et qu'on sait très bien que François Hollande n'a pas quitté la vie politique. Il a dit qu'il se mettait effectivement en recul, mais il n'a jamais dit qu'il abandonnait la vie politique, contrairement à d'autres. Et je pense que c'est un premier pas pour un éventuel retour.
Quand il dit qu'il ne faut pas flexibiliser, c'est quand même un peu le camembert qui dit Roquefort qui pue, quoi. Parce que il dit d'accord, ça va mieux, mais c'est grâce à moi. Bon, ok. En même temps, c'est bien de vouloir tirer de la couverture à soi.
Mais ce n'est pas en trois mois qu'Emmanuel Macron ait pu faire des réformes économiques.
Actuellement, on a quand même le fruit de
la politique de François Hollande.
François Hollande arrive juste pour dire coucou, ce qui va bien, c'est moi. Et ensuite pour dire mais il ne faudrait pas faire ce que j'ai fait avant. C'est quand même, pardon, mais
il ne faut pas flexibiliser,
il ne faut pas demander des sacrifices inutiles. Il a fait quoi pendant 5 ans ?
Il y a quand même eu des garanties sociales qui ont été portées par François Hollande, il y a quand même eu des débats sur la loi travail qui ont été portés par François Hollande. On n'arrive pas aujourd'hui à aborder de la même façon l'ère Hollande avec l'ère Macron. On voit les propositions.
Mais il manque pas d'audace, parce que lui, il a quand même fait la loi El Khomri avec le 49-3 et avec des Français dans la rue pendant des semaines et parfois des manifestations violentes. Donc dire attention, il ne faudrait pas aller à la rupture, ça ne manque pas d'audace, non ?
Mais François Hollande est un homme audacieux.
Il faudrait aussi avoir un petit peu de mémoire, parce que quand même, en termes de flexibilité, vous disiez qu'il a été entendu par les syndicats. Moi, je pense que c'est surtout la rue qui a entendu les syndicats pendant le débat sur la loi travail. Donc, quand il parle de limites sur la flexibilité, c'est vrai qu'on a de quoi être un petit peu surpris quand même.
Il se rappelle au bon souvenir d'Emmanuel Macron, c'est pas mauvais aujourd'hui. Et je pense que l'analyse que tu portais tout à l'heure sur le fait de rallumer certaines braises chez République En Marche est aussi un point important à tenir en compte dans nos analyses.
Donc surtout, le but est différent dans sa démarche.
Et surtout que l'été, on voit à jouer aussi dans l'imaginaire des politiques. C'est-à-dire qu'avant l'été, il y avait le côté Emmanuel Macron, tout marche, tout fonctionne. Et là, on sent qu'après l'été, il y a quand même beaucoup de gens qui se positionnent un peu différemment. Donc le fait qu'ils le fassent aussi aujourd'hui, qui doutent beaucoup plus, le fait que François Hollande prenne la parole aujourd'hui, montre qu'il a aussi compris ce changement d'opinion publique.
On l'a dit, il a donc fait ses déclarations, François Hollande, le jour de la reprise des discussions sur la loi travail, et notamment un point sensible, le plafonnement des dommages et intérêts en cas de licenciement abusif. L'objectif, c'est de doper l'emploi. C'est la suite des informés de France Info. 20h10, toute l'info, Emmanuel Langlois.
Enquête sur les attentats de Catalogne et les 4 suspects encore en vie inculpés pour assassinat terroriste. Ils ont été présentés à la justice aujourd'hui à Madrid. 32 Français ont été blessés dans ces attentats. D'après le nouveau bilan formulé et annoncé par le Quai d'Orsay aujourd'hui, 12 d'entre eux sont toujours hospitalisés, dont 3 dans un état grave. Les premiers rapatriements ont eu lieu dans la journée. L'ultime round de concertation et de négociation entre gouvernement et partenaires sociaux autour de la réforme du Code du travail. Il a démarré aujourd'hui. La rencontre a duré un peu plus de 2 heures. Les ordonnances, quant à elles, seront officiellement présentées dans 10 jours. Après une année 2016 catastrophique, le tourisme à Paris en Ile-de-France a repris des couleurs. Il a même battu son record de fréquentation au premier semestre de cette année. L'Italien Matteo Trentin remporte au sprint la 4e étape du Tour d'Espagne cycliste dans les rues de Tarragone en Catalogne. Le Britannique Chris Froome conserve son maillot rouge de leader. Et puis des canons à neige sur un glacier, c'est une première en France. Aux Deux Alpes, à l'automne, la station de ski d'Isère va en effet envelopper son glacier d'une couverture de neige artificielle suffisamment grande et résistante pour le protéger de la fonte et de l'érosion.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
Autour de la table des informés, Franck Boisise pour Libération, Marion Mourgue pour Le Figaro, Christophe Madrol, élu pour l'Union des démocrates et écologistes à Marseille, et Aude Rossigneux pour une journaliste politique pour la France entière, pour plein de journaux qui adorent votre talent.
Pour le bonheur de cette émission.
Les licenciements, le plafonnement des dommages et intérêts va-t-il doper l'emploi ? Voilà la question que nous nous posons ce soir avec donc cette dernière ligne droite des ordonnances de la loi travail. Une des mesures semble acquise, c'est le plafonnement de ces dommages et intérêts en cas de licenciement abusif avec un barème en fonction de l'ancienneté, une mesure qui serait destinée à rassurer les entreprises au moment de l'embauche. Est-ce que vous pensez que ça pourrait doper l'emploi et rassurer les entreprises ?
Ah, moi, j'ai une vraie question. Je ne comprends pas qu'on puisse se poser la question de est-ce que ça peut doper l'emploi ? Parce qu'il s'agit quand même de sanctionner les licenciements abusifs.
Oui.
D'accord. Donc, est-ce qu'il y a, moi, je veux bien qu'on me présente un chef d'entreprise qui se dit, J'ai très envie d'embaucher, mais je veux être sûre de pouvoir licencier et abusivement quelqu'un. Parce que c'est ça, en fait, c'est à ça que ça revient. Quand il y a des condamnations qui sont lourdes, c'est que la faute est lourde. Qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, je ne comprends pas du tout le mécanisme. Il existe une justice prud'homale, qui est quand même pas non plus un tribunal bolchevique, c'est moitié patron, moitié salarié, et puis quand ils ne réussissent pas à s'entendre, ça va vers un juge professionnel, et on dit à ces gens-là, on dit au patron, vous inquiétez pas, si vous licenciez abusivement, vous paierez pas trop cher. Donc vous pouvez dire, alors pour relancer le mariage, ce que je vous propose, c'est que on facilite le divorce et que si en plus vous cognez votre femme, ça vous coûte pas un bras en prestation compensatoire. C'est exactement la même chose.
Là vous scotchez tout le monde. On vous dit.
Mais je suis pas loin de partager à peu près à 102% le jugement de ma consœur dans la mesure où je pense que ça va surtout doper la défiance plutôt que la confiance, c'est-à-dire la défiance des salariés dans les relations sociales avec l'encadrement et avec leurs employeurs. N'oublions pas qu'on parce qu'on n'est pas sur les indemnités légales. Je crois qu'il faut cadrer un petit peu les choses quand même. Hein. On est sur un licenciement abusif. C'est-à-dire que, pour parler clair, ça ne s'est pas bien passé. Un salarié qui décide d'aller au prud'homme, puisque dans 90% des cas, c'est un salarié qui prend l'initiative d'aller faire une procédure au prud'homme, c'est vraiment que la séparation a été loin d'être à l'amiable. Et je rajouterai un dernier élément, c'est qu'en plus, la loi, ces derniers temps, a prévu la rupture conventionnelle. Donc, quand un employeur et un salarié ne sont pas d'accord, ils peuvent se mettre autour d'une table et se séparer. On va dire, c'est un petit peu comme le divorce. C'est un petit peu de manière plus facile. Donc, aujourd'hui, les cas qui arrivent au prud'homme sont vraiment des cas un peu plus extrême, où le degré d'affrontement, le degré de tension ou le préjudice estimé du salarié est assez important.
Mais quand on écoute les chefs d'entreprise, leurs représentants, l'argument c'est de dire quand on embauche quelqu'un, on veut savoir combien ça nous coûtera si on se sépare. Voilà, ils ont besoin d'être
si
rassurés.
On ne sait pas abusivement, c'est ça qui est dingue. C'est que c'est jugé, c'est que les prud'hommes sont là pour dire si le licenciement avait une cause, ce qu'on dit, réelle et sérieuse. Donc, en gros, si la cause n'est pas réelle et pas sérieuse, on peut être puni. Mais dans ce cas-là, ils licencient pour des causes réelles et sérieuses.
Cette mesure et ce système de barème, vous n'y êtes pas favorable ?
Ah ben moi, je vois pas du tout en quoi elle peut doper l'emploi. Enfin, je vois pas du tout quel est le propos. Sinon, de rassurer les patrons d'un gouvernement en disant on est totalement de votre côté et le chômage, c'est la faute des chômeurs et du Code du travail.
Mais c'est peut-être ça aussi qui est important, c'est de créer un autre rapport dans l'économie. Tout à l'heure, vous avez parlé de défiance. C'est vrai qu'aujourd'hui, les salariés sont toujours très crispés en se disant « on risque d'être licencié » et les chefs d'entreprise se disent « on peut pas embaucher parce qu'on n'arrivera pas à licencier, ça va être tellement contraignant que,
et coûteux
qu'il vaut mieux pas embaucher ». Et donc c'est ça qui est aujourd'hui, il faut arriver, alors c'est peut-être pas la bonne réforme, on va voir si on y arrive, à moduler pour mettre un peu plus de fluidité et que de part et d'autre, les gens se disent « bon, on peut prendre des risques ». Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien dans les pays anglo-saxons, dès qu'il y a un peu plus de risques et de fluidité, ça marche aussi. Ça ne veut pas dire ne pas protéger les salariés, mais arriver
un
à mettre…
Un peu plus de risques et de fluidité.
Dès qu'on met… La culture du risque dans les pays anglo-saxons permet aussi de se dire « bon, on tente,
de, vous
si
dire,
ça
de mesurer
pas,
le risque, c'est
oui,
ça ?»
Oui, de mesurer le risque, mais de le prendre aussi. Et aujourd'hui, on est dans une société qui est assez figée. Et
c'est quand même un
plus.
Système un peu perverse par rapport à ça. Moi, je partage l'avis de mes deux collègues qui, au début, disaient que c'était n'importe quoi. Un patron d'entreprise ne va pas prévoir de licencier à défaut un salarié, surtout un cadre hautement payé, en amont de pouvoir du travail qu'il pourrait faire. Donc on est dans un rapport qui pervertit le contrat social entre le salarié et le patron. C'est ça qui est dommageable dans les propos tenus aujourd'hui par le gouvernement. C'est qu'on casse quelque chose de ce rapport social. Et moi, je considère qu'au lieu de rentrer dans une réforme prud'homale telle qu'il est posée, discutons avec les agents syndicales de voir comment on pourrait améliorer le système prud'homal, déjà en donnant plus de moyens déjà au juge des prud'hommes, et déjà donnant plus d'effectifs au niveau du juge du prud'homme, parce que quand on voit les gens qui sont devant les prud'hommes, ils attendent 6-1 an avant de pouvoir passer au prud'homme, c'est déjà une vraie question, au lieu d'entrer dans un système qui pervertit l'ensemble du système de la relation entre le patron et les salariés.
Je crois qu'on peut dépassionner le débat au-delà de la sensibilité de chacun sur la question, en disant d'abord que le plafond pour Total qui licencie un de ses cadres, c'est pas la même chose que le plafond pour la PME du coin.
Pourquoi ça
ne
serait pas le même ?
Bah, c'est pas le même dans le sens économique, c'est-à-dire on va plafonner toutes les indemnités. Quand chez Total, on licencie quelqu'un, l'entreprise n'est pas en danger.
Oui.
En revanche, quand une PME licencie quelqu'un, effectivement, les indemnités de licenciement peuvent parfois être considérées comme pouvant mettre en danger l'avenir de l'entreprise.
C'est ce qu'a fait notamment l'Italie.
Voilà. Mais simplement, ce qu'on remarque aujourd'hui quand on s'intéresse au fonctionnement des conseils des prud'hommes, c'est que les juges des prud'hommes anticipent déjà cette dimension. Oui. C'est-à-dire que les juges des prud'hommes, qui sont en prise avec le réel, avec la réalité économique, quand ils décident d'indemnité pour un salarié
d'une
PME...
Oui, mais ça pose quand même un problème, ce que vous décrivez comme proposition, ça pose un problème d'une certaine forme d'inégalité face au licenciement. C'est-à-dire que si le salarié est dans un grand groupe, il va être mieux indemnisé que s'il travaille dans une petite PME. C'est injuste.
C'est pas injuste, c'est prendre en compte tous les facteurs économiques qui entrent en ligne de compte. Et effectivement, je pense que c'est en cela que les juges des prud'hommes eux-mêmes sont contre ce plafonnement. C'est qu'ils veulent garder cette capacité de moduler les dommages et intérêts qu'ils vont accorder en fonction de la manière dont le licenciement s'est produit, du préjudice qui a été causé, et puis de la santé économique et de la taille de l'entreprise.
De toute façon, quand vous écoutez un peu ce que disent les conseillers prud'hommeaux, ils disent que si on peut pas, si en gros on leur enlève leur capacité de jugement, parce que c'est quand même, en gros, on est en train de dire à des juges, il va y avoir un barème, ça va être justice robot. Donc, on peut comprendre qu'ils apprécient modérément. Et ils disent quoi ? On va pouvoir donner des indemnités pour d'autres raisons, pour licenciement brutal ou vexatoire.
Ils vont trouver tout un tas de griefs qui vont s'accumuler et augmenter la facture.
Ils peuvent cumuler des trucs.
Et donc finalement, on n'aura résolu aucun problème.
Rien. Honnêtement, c'est vraiment des mesures d'affichage. Et puis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dit quoi à un chef d'entreprise ? Préparez-vous une cagnotte avec les indemnités légales et le barème des dommages et intérêts. Et ça vous fait une cagnotte avec laquelle vous saurez exactement combien ça vous coûtera de virer une femme enceinte. Effectivement, ça veut dire ça. Ça veut dire ça, virer une femme enceinte ou une personne handicapée, puisqu'il s'agit de licenciement en principe non justifié ou illégal et jugé illégal par la justice. C'est ça que ça veut dire. On arrive à une cagnotte pour pouvoir payer son amende, en fait.
Dans quelques instants, la suite de ce débat sur France Info, les licenciements abusifs, faut-il un plafonnement des dommages et intérêts ? Est-ce que ça pourra doper l'emploi ? Je lisais Marion Mourgue dans le Figaro, que ça existe déjà dans plusieurs pays européens, notamment en Espagne, en Grande-Bretagne, en Italie. On en reparle dans un instant dans les informés. Vous êtes sur France Info, il est 20h20. Toute l'info, Emmanuel Langlois.
32 Français blessés dans les attentats de Catalogne. Nouveau bilan fourni par le Quai d'Orsay ce soir. 12 d'entre eux sont toujours hospitalisés, dont 3 dans un état grave. Les 4 suspects encore en vie ont eux été inculpés pour assassinat terroriste à Madrid. L'un d'eux a reconnu devant un juge que la cellule djihadiste préparait une attaque de bien plus grande ampleur que celle de Barcelone et de Cambrils la semaine dernière. La rentrée politique de François Hollande et sa mise en garde à l'adresse d'Emmanuel Macron depuis Angoulême où il était en déplacement. Pour l'ancien chef de l'État, il ne faudrait pas, dit-il, flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures. Fin de citation. Alors que les ordonnances sur la réforme du Code du travail seront annoncées la semaine prochaine, dans une dizaine de jours précisément. Un immense défi à relever ce soir à Belfast pour l'équipe de France féminine de rugby, sortir l'Angleterre tenante du titre et accéder enfin à la finale après 6 échecs. Sans surprise, la Nouvelle-Zélande, grande favorite, s'est qualifiée pour cette finale de la Coupe du Monde. Et puis du football, défait 2-0 à l'aller. Nice aura besoin d'un exploit tout à l'heure pour se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions face à Naples en barrage retour. Match à 20h45 comme pour le rugby. Reconversion télévisuelle pour Jean-Pierre Raffarin enfin. Retiré de la vie politique, l'ancien Premier ministre va devenir un des chroniqueurs de la nouvelle émission dominicale de Laurent Delahousse sur France 2.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
20h21, suite des informés de France Info, de Rossigneux, journaliste politique, Christophe Madrol, élu à Marseille pour l'Union des démocrates écologistes, Marion Mourgue, journaliste politique au Figaro, et Franck Boisise, journaliste économique à Libération. Les licenciements abusifs, le plafonnement des dommages et intérêts, donc dans les tuyaux, actuellement dans les ordonnances du ministère du Travail. Alors, je rebondis sur ce qu'on disait juste avant les infos. Le plafonnement, il existe déjà. C'est quelque chose d'assez récent en Europe. C'était dans le Figaro, Marion Mourgue, avec donc l'Espagne qui a réduit le plafond à 24 mois au lieu de 42 il y a quelques années. Pour certains experts, ça a contribué à relancer l'emploi. Donc comme quoi, ça peut avoir peut-être un effet positif sur la confiance des...
C'est aussi le côté psychologique sur le côté, ce que je disais tout à l'heure aussi... Une volonté de fluidifier et donc un peu une confiance des deux... Enfin, en tout cas, là, des chefs d'entreprise.
Mais... Et vous en pensez ? Vous êtes d'accord avec ça, Marion Mourgue ? C'est votre conviction, vous aussi, que ça peut fluidifier ou pas ?
Si on arrive à protéger encore les salariés, oui, mais c'est vrai que là, on est dans un système aujourd'hui où plus rien ne fonctionne. Donc, il faut peut-être arriver à changer un peu.
Angoisise.
Deux petites informations complémentaires quand même. C'est quand on regarde le nombre de procédures engagées devant les conseils de prudhomme, elles étaient à 250 000 il y a 3 ou 4 ans de ça. Elles sont en chute libre parce qu'on a oublié quand même que déjà une loi Macron, à l'époque où il était à Bercy, a un petit peu renforcé la procédure, c'est-à-dire que c'est plus compliqué d'introduire un recours devant les prud'hommes, et les délais de prescription se sont réduits. Donc déjà, il y a moins de dossiers dans les prud'hommes. Ensuite,
sauf que vous avez beaucoup plus de ruptures conventionnelles, ce qui est aussi une manière
de fluidifier, comme vous disiez.
Oui.
Mais dans le cas des négociations.
Donc c'est aussi pour ça que les chiffres sont...
Donc sur cette fluidification qui est, semble-t-il, le terme important ce soir, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi que les entreprises ont la possibilité, et l'actualité de cet été nous l'a d'ailleurs montré dans un certain nombre de dossiers, de faire des plans sociaux quand elles veulent malheureusement pas garder tous leurs salariés, et que la plupart de ces plans sociaux, on l'observe aujourd'hui, quand ils sont contestés, sont validés en justice.
Ces plafonnements et ce barème, je lisais tout à l'heure l'analyse justement d'un avocat dans la presse qui disait que actuellement la somme elle est fixée par le juge, elle est proportionnelle au préjudice, à la souffrance aussi provoquée par le licenciement, parce que bien souvent il y a une souffrance derrière un licenciement abusif, et que faire un barème, ça robotise presque la justice et que ça retire l'humanité de la décision du juge. C'est un peu ce que vous disiez il y a quelques instants.
C'est de la justice robot, c'est du prêt à juger. C'est-à-dire que on dit ça va coûter tant, ça va être tant, et puis licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Vous êtes dans votre entreprise depuis tant d'années. Votre entreprise, il y a tant de salariés, c'est tant pour l'entreprise. Mais c'est pas seulement ça la justice. Enfin, pourquoi il y a des conseillers prud'hommaux dans ce cas-là ? Enfin, je trouve ça bizarre
Là, on remplit un formulaire sur Internet. Ça tombe tout
légal,
seul.
Légal, pas légal, point, merci, au revoir, circuler, il n'y a rien à voir.
Prenons peut-être un cas concret. Imaginons, puisque le projet du gouvernement est de plafonner les indemnités à 20 mois de salaire. C'est pour le moment ce qui est en train d'être écrit dans la copie. Imaginons un salarié qui a 25 ans d'ancienneté dans la même entreprise, qui a une cinquantaine d'années et qui effectivement se fait licencier dans des conditions un petit peu violentes qui nécessitent de porter l'affaire dans des prud'hommes. On peut considérer qu'à l'âge qu'il a, sa capacité à retrouver un emploi sera assez faible. Et donc, pour indemniser le préjudice qu'il aura subi et l'incapacité qu'il aura peut-être à poursuivre sa carrière, on plafonne en tout et pour tout à 20 mois de salaire l'indemnisation de son préjudice. Est-ce que c'est pas un peu problématique quand on ramène ça
à
chaque salarié ? Parce qu'on peut considérer que c'est pas moi... S'il ne retrouve pas de boulot pendant les années qui viennent...
On voit que vous êtes jeune, Guillaume. Moi, je peux vous dire qu'à 52 ans, sur le marché du travail, il faut courir. Hein.
Ça vous paraît injuste, vous aussi ?
Moi, complètement. Je trouve mais les explications de mes collègues sont très justes. On ne peut pas faire une politique, un jugement robot par rapport à ça. On a des gens autour de la table, il y a des syndicats qui discutent.
Attendez. Il y a quand même aussi un autre paramètre, parce que là, vous mettez dans la situation des employeurs qui voudraient faciliter les licenciements abusifs, etc. Mais quand on est licencié et qu'on contacte son avocat, on a aussi besoin de savoir quel est ce rapport de force. Et parfois, c'est très compliqué. L'avocat a beaucoup de mal à dire, écoutez, vous pouvez espérer avoir tant de mois, tant de dommages et intérêts. Avoir ce barème, est-ce que c'est pas aussi dans l'intérêt du salarié de savoir s'il va ou non au prud'homme ?
Cette absence, ce pseudo-barème que vous évoquez, Guillaume, s'appelle la jurisprudence. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui qu'un licenciement abusif pour quelqu'un qui a moins de 2 ans, c'est 6 mois.
Ouais.
Et il y a une sorte d'uniformité dans les jugements sur le territoire français qui fait qu'on n'est quand même pas complètement dans l'inconnu.
On n'est pas dans l'inconnu, oui. Marion Mourgue ?
Non, là, rien de plus à
dire. Vous êtes tous d'accord.
C'est déjà encadré.
Vous êtes tous d'accord, mais est-ce que les syndicats, eux, sont tous d'accord ?
Ah bah, manifestement non, puisqu'ils ne sont pas en... Ils ne partent pas tous unis.
Pardon, mais on ne sent pas non plus de fronde.
Il faut peut-être aller dans la coulisse à ce niveau-là.
Ouais.
C'est-à-dire
là, ils attendaient la copie aussi. Hein.
D'une part, ils attendent la copie, puis il y a la carotte qu'on prépare pour essayer de faire passer le bâton, si j'ose dire. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de dire, si vous me suivez sur le plafonnement des indemnités, je propose de réévaluer ce qu'on appelle les indemnités légales. Or, il faut savoir que dans ce pays, alors c'est un petit peu technique, mais on va le faire rapidement, les indemnités légales, quand il n'y a pas de convention collective signée par branche professionnelle, c'est équivalent à 1/5 de mois de salaire par année de présence.
Mmh.
Et donc, c'est pas beaucoup. Et donc, le gouvernement dit, je vais essayer de rassurer. Simplement,
ça serait une ligne rouge. Ça serait une ligne rouge, ce plafonnement et ce barème, vous pensez, de la part des syndicats ?
Je pense qu'il sera intéressant de voir les réactions et dans les entreprises et à l'Assemblée nationale.
Juste un petit point sur la méthode. Vous parlez de l'unité ou pas des syndicats. Il y a aussi l'habilité du gouvernement qui, jusqu'à présent, n'a pas vraiment donné de texte pour l'instant. Les syndicats attendent de savoir justement quelle est la... Est-ce qu'il y a une ligne rouge ou pas qui a été franchie? Personne ne sait jusqu'où va le gouvernement et sur quoi va trancher le président.
Ils ont à peine le droit de voir le texte.
Justement. Et donc,
c'est
l'habilité et la stratégie du gouvernement.
On leur dit d'approcher. Enfin,
c'est... Alors, ils ont le droit de le lire, mais...
Par SMS.
Ils ont le droit de le lire.
Je crois qu'à
partir, d'aujourd'hui, c'est le MEDEF qui était le premier, mais il commençait à avoir un peu plus d'éléments. Mais c'est aussi la stratégie du gouvernement pour essayer de tenir le front et voir si ça ne pète pas.
En tout cas, la confiance règne, quoi.
Dans quelques instants, la suite des informés. D'ici là, la météo et les infos. Nous allons parler dans quelques instants des psychiatres. Doivent-ils coopérer avec la police, avec le renseignement face aux menaces terroristes, puisque 30% des personnes radicalisées auraient des problèmes psychologiques, d'après le ministre de l'Intérieur. A tout de suite sur France Info.
La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain.
Il y a des magasins pour faire flamber le prix de leur cuisine. Ça, c'est des chefs. Et puis, il y a la paire avec ses festiprix aux petits oignons.
Jusqu'au 11 septembre, c'est la rentrée des festiprix chez la paire. Avec par exemple, la pose de votre cuisine prémontée pour 1 euro seulement.
1 euro la pose. La paire, mais c'est sûr, il n'y en a pas deux.
La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Conditions sur lapaire.fr. France Info Météo avec Calipage, toute la papeterie et toutes les fournitures scolaires. Rendez-vous dans l'un de nos magasins ou sur calipage.fr.
Elodie Calac pour Météo France.
Plus changeant demain dans le sud et dans l'est, des nuages bas vers l'Aquitaine, Midi-Pyrénées le matin, du soleil ailleurs, mais ça deviendra lourd avec une averse ici ou là. Un risque d'orage dans l'après-midi, dans le sud-ouest, le massif central, surtout sur les Pyrénées. Ailleurs, ce sera plus calme. Pas mal de grisailles sur la moitié ouest le matin, du soleil pour l'après-midi, mais on gardera quand même des nuages entre la Bretagne, la Normandie et le nord de la Seine. Le matin, pas moins de 14 à 19 degrés, jusqu'à 21 pour le sud-est. Et puis l'après-midi, il ne fera plus que 20 à 23 degrés près de la Manche, 23 à 28 degrés sur le nord-ouest, près de l'océan également. Il fera 28 à 32 degrés en allant vers l'est et jusqu'à 34 degrés en vallée du Rhône.
Merci Elodie. Vous êtes sur France Info, il est 20h30.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Toute l'info, Emmanuel Langlois.
Et c'est le dernier bilan, il est fourni par le Quai d'Orsay ce soir. 32 Français ont été blessés dans les attentats de Catalogne la semaine dernière. 12 d'entre eux sont toujours hospitalisés, dont 3 dans un état grave. Les premiers rapatriements ont eu lieu aujourd'hui. Quant aux 4 suspects survivants de la cellule terroriste de Ripoll, eh bien, ils ont été mis en examen ce soir pour meurtre terroriste. Première audition devant le juge chargé de l'affaire. À Madrid pour France Info, correspondance Pierre Chaperon.
Oui, et les auditions des 4 suspects ont débuté vers 13h pour s'achever vers 18h. Ce qu'il faut en retenir, c'est que les 4 présumés terroristes ont tous accusé l'imam de Ripoll, le considérant comme le cerveau de l'opération. Des 4 personnes entendues, c'est le seul espagnol rescapé qui a donné le plus d'indications au juge. Mohamed Oulil Chemlal, ce jeune de 21 ans, a confirmé que les attentats devaient être de plus grande ampleur. Durant son audition de plus d'une heure, le jeune homme, originaire de Melilla, cette enclave au nord du Maroc, a confirmé que les grands monuments étaient visés, dont la Sagrada Familia. Les 4 ont été mis en examen pour assassinat de nature terroriste. Madrid, Pierre Chaperon, France Info.
Et puis à Marseille, l'automobiliste qui a foncé délibérément sur des piétons hier est dans un probable processus psychotique d'après le parquet. L'homme a reconnu en garde à vue le vol 3 jours plus tôt de la fourgonnette avec laquelle il a fauché 2 personnes près de 2 abribus. Il n'a pas donné d'explication à son geste, ce geste qui a fait un mort et un blessé. De nouvelles rixes ont éclaté entre migrants à Calais cet après-midi près de l'antenne du Secours catholique. Il y a une vingtaine de blessés légers. La nuit dernière, déjà des bagarres entre 150 à 200 Afghans et Africains, certains armés de barres de fer ou de bâtons près de l'autoroute A16 ou encore de la rocade portuaire de Calais. De nouveaux accidents mortels dans les Alpes. En Autriche, un quinquagénaire originaire de Colmar en Alsace a fait une chute mortelle de 200 mètres alors qu'il randonnait avec sa femme à 2400 mètres d'altitude. Un peu plus tôt, c'est un alpiniste alpiniste italien qui avait fait une chute de 150 mètres alors qu'il redescendait du refuge du Goûter à 3800 mètres d'altitude dans le massif du Mont Blanc. Il a succombé à ses blessures. À l'étranger, la marine américaine, l'US Navy, annonce une vaste enquête sur l'ensemble de sa flotte après une série d'accidents. Les recherches pour retrouver 10 marins américains portés disparus au large de Singapour, quant à elles, se poursuivent. Et puis le rachat de Monsanto par Bayer dans le collimateur de Bruxelles. L'Union européenne ouvre une enquête sur le rachat du spécialiste américain des semences OGM par le géant allemand de l'agrochimie. D'après Bruxelles, la vente entraînerait la création de la plus importante entreprise du monde dans le secteur des pesticides et des semences. Un mot de rugby, un immense défi à relever ce soir à Belfast pour l'équipe de France féminine. Sortir l'Angleterre, tenante du titre et accéder enfin à la finale après 6 échecs. Le match à partir de 20h45. Pour l'instant, voici les informés suite et fin.
Les informés, Guillaume Caour.
20h33, les informés de France Info avec Christophe Madrol, élu à Marseille pour l'Union des démocrates écologistes. Aude Rossigneux, journaliste politique. Marion Mourgue, journaliste politique également au Figaro. Et Franck Boisise, journaliste éco à Libération. Le terrorisme après les événements à Barcelone et puis aussi cette voiture bélier à Marseille. Les psychiatres doivent-ils coopérer avec la police, avec le renseignement? C'est le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui dit vouloir travailler avec le ministère de la Santé pour mieux détecter les déséquilibrés susceptibles de devenir des terroristes ou alors de les imiter, par exemple avec la voiture bélier. Le psychiatre David Gourion expliquait sur France Info aujourd'hui qu'il lui paraissait difficile de coopérer avec la police.
D'abord, vous savez que nous sommes d'une profession extrêmement encadrée par le secret médical, qui a des exceptions, la maltraitance pour les enfants ou des actes criminels qui vont se commettre. Si demain passe entre mes mains un terroriste en puissance qui me dit « je vais commettre un homicide, un attentat », ça oui. Là, j'ai le devoir de le signaler, évidemment, au préfet de police. Mais ce que propose M. Collomb est quelque chose qui n'est pas réaliste au vu du secret médical, qui est de dire « on va demander au psychiatre de nous signaler les personnes qui ont des profils psychologiques troublés, qui sont potentiellement en voie de radicalisation. Mmh. Et ça n'est pas possible. »
Alors d'où part cette réflexion de ce chiffre, d'après Gérard Collomb, 30% des personnes radicalisées auraient des problèmes psychologiques. Est-ce que c'est un chiffre qui vous pose question autour de cette table?
Je voudrais savoir ce qu'on entend, moi, parce que fragilité psychologique ou être psychotique, c'est un peu différent. C'est des fragilités psychologiques, effectivement, c'est un bon biais pour recruter des gens dans des phénomènes de radicalisation ou sectaires. Évidemment, il y a plein d'ados, mais dans ce cas-là, enfin, tous les ados sont un peu fragiles, quoi. Et il y a plein de gens qui ont des problèmes psychologiques qui, pour autant, sont pas radicalisés. Je sais pas si ça, le British Medical Journal publiait récemment une étude disant que, justement, les terroristes avaient pas des profils psychotiques. Ils peuvent être fragiles. Non, mais qu'on soit fragile psychologiquement, il y a plein de gens qui le sont. Mais est-ce qu'ils relèvent de la psychiatrie? Je sais pas. Hein, j'ai pas de. Moi, je suis pas psy. Donc.
Marion Mourgue.
Oui, je trouve que l'idée de Gérard Collomb, c'est la fausse bonne idée. C'est l'idée qu'un politique balance pour faire du buzz. Mais concrètement, alors comment ça s'appliquerait? On comprend pas bien. C'est-à-dire que est-ce que il détaille pas son application?
Non, lui, ce qu'il voudrait, ce serait que les psychiatres,
une collaboration,
les psychiatres puissent alerter. Pour éviter des pour
mais
éviter
alors
des
ça n'impose pas l'impression que les terroristes fréquentent des psys. Je suis pas sûr que ça l'adepte.
Déjà, on n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression que ce soit dans les hôpitaux psychiatriques qu'il y ait vraiment les terroristes. C'est plutôt soit dans les prisons, soit dans d'autres filières.
D'accord, c'est une fausse bonne idée de notre ministre de l'Intérieur. On sait très bien que même s'il y a 30% de déséquilibrés qui tombent dans le terrorisme, on peut penser que les terroristes, il y en a beaucoup plus déjà par rapport à ça. Et savoir qu'est-ce que c'est qu'un terroriste psychotique. Moi, tout à l'heure, on parlait en off, on a vu que les budgets liés à la psychiatrie, c'était les parents pauvres de la médecine. Et tous les jours, on voit des gens qui sont en grosse difficulté psychiatrique, qui ont du mal à être suivis. Donc déjà, il faudrait donner des moyens à la psychiatrie en France pour être une vraie psychiatrie de pointe. Là, effectivement, on pourrait détecter en amont...
Notamment
dans les prisons, et Marion a raison, avant de penser de collaborer avec les psychiatres.
Peut-être que le problème, c'est que ces fameux 30% ne sont pas soignés.
Mais comme disait ma collègue, je pense pas que les terroristes aujourd'hui qui sont sautés aillent voir toutes les semaines un psychanalyste ou un psychiatre.
De toutes les manières, si ils sont instables psychologiquement, est-ce que les signaux qu'ils émettent ne sont visibles que par les psychiatres. Je pense qu'il faut qu'on se pose la question de tout l'environnement. C'est-à-dire qu'un terroriste potentiel, il a une famille, il a un entourage, il a des copains. C'est-à-dire qu'il ne vit pas seul.
Mais vous ne pensez pas malgré tout que si la psychiatrie est un moyen de détecter d'éventuels comportements à risque, ça peut être utile de sensibiliser les psychiatres à cela.
Ils sont sensibilisés, Guillaume. Ils sont sensibilisés, Guillaume. Les psychiatres, ils ne sont pas hors sol.
Votre psychiatre...
Non, Ben Gourion, c'est pas David, c'est un autre.
David Gourion.
Il a bien dit que en cas d'urgence, il signalait les cas...
Si la personne dit clairement, je compte commettre un attentat.
Ça, je pense que c'est une manière aussi de nous interpeller sur ce que sont les terroristes. C'est-à-dire que les terroristes aujourd'hui se fondent dans la société, et c'est bien la difficulté des renseignements de les détecter.
Ils ont le devoir de se fondre dans la société et de dissimuler. C'est un des devoirs de dissimulation.
C'est pour ça qu'il est très compliqué.
Est-ce que finalement, ça n'illustre pas aussi une certaine forme de désarroi? C'est-à-dire que les politiques sont désemparés face à la situation et qu'il n'y a pas de solution.
Bien sûr, mais par exemple,
donc on balance ce chiffre. Non.
Oui, alors non, je pense que d'abord on a un peu les jetons parce qu'effectivement le nombre de tarés qui se mettent à foncer sur des gens en voiture, évidemment.
C'est un vrai problème de société.
Oui, mais c'est un processus d'imitation.
Oui. Il y a les deux phénomènes. Il y a le radicalisé qui a des problèmes psychologiques et il y a celui qui a des problèmes psychologiques qui imite le terroriste.
Oui, mais les deux récents conducteurs qui ont foncé sur la foule, ou dans des abribus, là en l'occurrence à Marseille hier et à la Ferté-sous-Jouarre la semaine dernière, ils étaient pas radicalisés, ils étaient même pas musulmans. Enfin, dans ce cas-là, je trouve qu'on marche vraiment sur des œufs et je comprends pas pourquoi on demande aux psys qui sont tenus par un secret médical en plus, donc ce serait compliqué de briser leur
tout
secret médical. Non,
tout
juste simplement, je pense que et tu le disais très bien tout à l'heure, le numéro vert qui a été mis en place en 2014, je le trouve beaucoup plus utile parce que tout le monde ne fréquente pas des psys. En revanche, tout le monde a un voisin, des collègues.
Pour détecter la radicalisation, un numéro vert où on peut signaler un comportement. Allez, pour conclure ce débat.
Voilà.
Précisément, ce numéro vert, il est géré par l'unité centrale de lutte antiterroriste, l'UCLAT. Effectivement, il décroche si quelqu'un appelle. Je pense que derrière cette déclaration du ministre de l'Intérieur, il faut aussi voir les limites du renseignement. C'est-à-dire que détecter les terroristes, c'est le boulot du renseignement. Et de quoi se rend-on compte au jour d'aujourd'hui? C'est que le renseignement est un peu au taquet, si je puis employer cette expression, et que sa capacité à scanner et à voir dans tous les environnements les terroristes potentiels est limitée. Et donc, on cherche d'autres sources de renseignement, mais dont c'est pas le métier.
L'Afghanistan, le comeback des Américains, la suite des informés de France Info dans une seconde. Il est 20h40, toute l'info, Emmanuel Langlois.
Avec à la une ce soir l'enquête sur les attentats de Catalogne, les quatre suspects encore en vie ont été présentés à un juge à Madrid. Première audition et inculpation pour assassinat terroriste pour tous les quatre. L'ultime round de concertation entre gouvernement et partenaires sociaux autour de la réforme du code du travail. Il a démarré, la rencontre a duré un peu plus de 2 heures aujourd'hui. Avec le MEDEF et les autres organisations suivront dans la semaine. Les ordonnances, quant à elles, seront officiellement présentées dans 10 jours maintenant. Après une année 2016 catastrophique, le tourisme à Paris en Ile-de-France a repris des couleurs et même battu son record de fréquentation au premier trimestre de cette année. L'Afghanistan salue la décision de Donald Trump de renforcer la présence militaire américaine sur son sol. C'est ce que disent les autorités afghanes. Quant aux talibans, ils promettent, eux, en retour, le djihad et un nouveau cimetière. Fin de citation. L'Italien Matteo Trentin remporte au sprint la 4e étape du Tour d'Espagne cycliste dans les rues de Tarragone en Catalogne. Le Britannique Chris Froome conserve son maillot rouge de leader. Et puis le FC Barcelone porte plainte contre Neymar devant un tribunal espagnol pour non-respect de contrat. Son ancien club réclame à l'attaquant brésilien, transféré au début du mois au PSG, la restitution d'une partie d'une prime ainsi que 8,5 millions d'euros de dommages et intérêts. Enfin, des canons à neige sur un glacier, c'est une première en France. Aux Deux Alpes, à l'automne, la station de ski d'Isère va en effet envelopper son glacier d'une couverture de neige artificielle suffisamment importante et résistante pour le protéger de la fonte et de l'érosion.
France Info. Les informés, Guillaume Caour.
Les informés de France Info, Franck Boisise, Libé, Marion Mourgue, Le Figaro, Christophe Madrol, élu à Marseille, et Aude Rossigneux, journaliste politique. L'Afghanistan est-il le bourbier américain, puisque Donald Trump a changé d'avis? Pendant la campagne, il disait « il n'est pas question de continuer en Afghanistan ». Et puis finalement, il a décidé d'envoyer des soldats supplémentaires. On parle de 4000 militaires supplémentaires, alors qu'il y en a 8400 déjà sur place. C'est un rétropédalage assez surprenant de la part de Donald Trump. Christophe Madrol.
Ah bah oui, mais je crois que Donald Trump est dans une situation compliquée, en interne comme en externe. Il faut se rappeler, on en parlait tout à l'heure, il y avait quand même plus de 100 000 militaires américains en Afghanistan.
Ouais, il y a 7 ans, au plus haut, au pic.
Obama a fait redescendre à 8 000. Aujourd'hui, la position a complètement changé, puisque les 8 000 militaires qui étaient en Afghanistan, mes collègues vont en rajouter, mais c'était plus en formation, plus en soutien logistique.
Pour former les soldats, les forces.
Aujourd'hui, Donald Trump envoie des militaires qui vont guerroyer, qui vont être en avant.
Parce que le but, c'est de tuer les terroristes.
Ah, il doit montrer les choses. Et puis Mad Dog, le fameux ministre de la Défense, qui est un virulent des faucons, donne des gages aux républicains, parce qu'on a vu les déclarations toute la journée de McCain.
Mais pourquoi il fait ça?
Parce qu'il a besoin de redorer son blason au niveau de l'interne des républicains. Il veut aussi donner des gages en montrant que l'Amérique est de retour sur la scène internationale. On voit les conflits qu'il y a avec la Corée du Nord. Mais aujourd'hui, Donald Trump a besoin de montrer ses muscles au niveau de la scène internationale.
À nuancer néanmoins un petit peu, je vous renvoie à l'excellente interview de Mark Jacobson, qui est l'ancien représentant de l'OTAN en Afghanistan dans Libération. Il explique que finalement, Trump avait le choix entre trois options. Très clairement, soit il arrêtait tout en Afghanistan, il faisait rentrer tout le monde, soit il envoyait des sociétés militaires privées, les fameuses SMP, et il privatisait le conflit, avec les risques de débordement qu'on a vu par le passé, parce que c'est quand même pas l'armée, soit il envoyait des hommes supplémentaires. L'option qu'il a choisie est quand même l'option la plus médiane au milieu de ces trois options.
Donc il a choisi
il a choisi une option sobre, sachant
mais qui remet quand même les États-Unis dans la confrontation avec les talibans.
Bien sûr.
Et il avait quand même fait campagne sur la première option. C'est-à-dire que sur Twitter, il avait expliqué plusieurs fois « quittons l'Afghanistan ». Et là, il fait un revirement total. Donc, il est...
Pourquoi, selon vous ?
Et il était soutenu dans
Je suis assez d'accord avec Christophe sur le besoin par rapport à la situation politique intérieure. Et on l'a vu tout le mois d'août, où ça a été compliqué pour lui, de justement se réaffirmer en chef d'État.
Et en chef des armées, qui est quand même un grand partisan du retrait d'Afghanistan. Bannon, qui a quitté la Maison-Blanche ces derniers jours, était un fervent partisan du retrait de l'Afghanistan. Oui. Donc là, maintenant qu'il est parti, peut-être que Trump se sent davantage les coups des franges. Et puis que pour faire oublier justement les turpitudes à la Maison-Blanche, ses problèmes avec la Russie, ses déclarations quand même modérément appréciées à propos de Charlottesville, je pense que ça lui permet aussi de détourner l'attention.
Le président afghan et Donald Trump ont tous deux d'ailleurs appelé les talibans à négocier. Est-ce que cette annonce du renvoi de troupes, de quelques milliers de soldats supplémentaires, ce qui passe pas grand-chose, est-ce que c'est un moyen de faire pression pour essayer de négocier avec les talibans, si toutefois il est possible de négocier avec eux?
Ça fait
16 ans, le conflit s'est enlisé depuis 16 ans. Si les talibans voulaient négocier, il y aurait eu d'autres moyens de négocier. Non, je pense qu'effectivement, Marion a raison, on a discuté là-dessus, c'est qu'il a besoin de montrer ses troupes. Le slogan « l'Amérique d'abord » est montré par l'initiative qu'il prend aujourd'hui. Là, ce soir, je crois qu'il fait il est en déplacement au Nevada ou en Arizona pour conforter son électorat républicain dur. Il montre ses muscles.
Oui, mais à partir du moment où il montre ses muscles, il y a quand même eu déjà 2400 morts américains et 20 000 blessés depuis 2001, hein, depuis 16 ans, le plus long conflit de l'histoire des États-Unis. Est-ce que, à partir du moment où il renvoie des troupes, il n'y a pas malgré tout un risque de s'enfermer dans un conflit, parce que là, ça veut dire clairement qu'il repart au front face aux talibans. Il est obligé d'aller au bout.
Le premier risque, c'est ce qu'on appelle le syndrome du body bag, c'est-à-dire que quand les victimes rentrent dans ce qu'on appelle les body bags aux États-Unis, l'opinion publique n'accepte plus, n'accepte plus de voir ces soldats mourir.
Mais là, il va vers cela, lui.
À 15 000 km de Washington.
Il va vers cela, Franck Boisier.
Il prend ce risque-là. Et en même temps, quand vous dites « America is back » et qu'il montre les muscles, je crois qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt, parce que essayer de gérer la situation afghane, c'est certes sur le plan militaire, mais c'est aussi sur le plan économique. Et on se rend compte que dans le même temps, les budgets d'aide économique à l'Afghanistan sont plutôt en régression. Donc, est-ce qu'on arrivera à restaurer la situation en Afghanistan uniquement avec des hommes en armes et avec des canons, ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas songer aussi au développement futur de ce pays ?
L'impression que j'ai pour continuer, je pense que c'est vraiment un coup politique national. Quand on voit les déclarations de McCain, quand on voit les déclarations aujourd'hui de Rubio, quand on voit les déclarations des sénateurs républicains qui applaudissent la décision de Trump, il était quand même mis sur la touche depuis quelques semaines par ces mêmes sénateurs républicains qui commençaient à douter de Trump. Aujourd'hui, le fait qu'il marque sa volonté de relancer une stratégie offensive en Afghanistan à la Trump, il est dans un jeu aujourd'hui pour caresser dans le sens du poil les républicains. Je ne sais pas si ça va aller très loin. Quoi,
mais vous parce dites qu'on connaît stratégie Trump. Offensive, mais justement vous dites un mot, mais est-ce qu'il y a vraiment une stratégie derrière ?
Avec Trump, c'est toujours compliqué.
Ah, mais là, on parle de 4000 soldats.
Et est-ce qu'elle est offensive
avec et en montagne d'Afghan, oui, on connaît
la superficie du territoire. 4000
hommes, est-ce qu'il y a une stratégie derrière ça ?
C'est pour ça que ça semble être plus un coup de com'.
Je sais pas, c'est peut-être tous des Brad Pitt ou des, comment s'appelle le héros, là, dans les films américains, là, où ils débarquent avec leurs missiles et tout, là.
On parlait pas à une experte.
Moi non plus, vous avez pas un nom.
Non plus.
C'est une inversion de tendance, mais effectivement, c'est une inversion de tendance modérée. C'est-à-dire que, envoyer 4000 hommes maximum, alors qu'il y en a eu jusqu'à 140 000, c'est vrai que il en remet un petit peu sur place, mais ça n'a rien à voir avec ce que ça a pu être. Mais ça, c'est en même temps, le message est assez double, c'est-à-dire que c'est à la fois j'y retourne, mais j'y retourne pas complètement.
C'est ça, c'est Trump.
C'est du Trump.
C'est du Trump. Il remet le couvert en Afghanistan, si vous me permettez cette expression. Et en parlant de remettre le couvert, nous allons nous diriger dans notre prochain débat des informés de France Info vers le pourboire. Faut-il le rendre obligatoire ? En tout cas, l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie réfléchit à des solutions pour rendre plus accueillant ce métier pour les jeunes, puisqu'ils ont beaucoup de difficultés à recruter. Tristan Vimon, lui, est restaurateur à Nancy. Et voilà ce qu'il pense de ce débat sur les pourboires.
Les serveurs se font de plus en plus rares. Avant, on gagnait beaucoup, mais maintenant, on gagne beaucoup moins. Question touriste, ça va, ils ont l'habitude. Et le pourboire est assez facile, mais les Français ont de plus en plus du mal à donner le pourboire. On va partir sur 20 centimes sur un plat à 15 euros. Ils vont plus arrondir la note que laisser un pourboire pour le service.
Alors, faut-il rendre le pourboire obligatoire ? Faut-il trouver des manières plus incitatives pour les clients de donner une petite pièce pour le serveur ? C'est la suite des informés dans un instant sur France Info. Il est 20h50, toute l'info, Emmanuel Langlois.
32 Français blessés dans les attentats de Catalogne la semaine dernière. C'est le dernier bilan fourni ce soir par le Quai d'Orsay. 12 d'entre eux sont toujours hospitalisés et 3 dans un état grave. Quant à l'enquête à l'avance, les 4 suspects encore en vie ont été inculpés pour assassinat terroriste après leur présentation à un juge à Madrid. L'un d'eux a reconnu devant le magistrat que la cellule djihadiste de Ripoll préparait une attaque de plus grande ampleur que celle de Barcelone et de Cambrils. On y revient tout à l'heure dans le journal à 21h. La rentrée politique de François Hollande et sa mise en garde à l'adresse d'Emmanuel Macron également dans l'actualité. Pour l'ancien chef de l'État, il ne faudrait pas, dit-il, flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures. Fin de citation. Cet immense défi à relever ce soir à Belfast pour l'équipe de France féminine de rugby, sortir l'Angleterre tenante du titre et accéder enfin au final après 6 échecs. Et puis du football également, défait 2-0 à l'aller. Nice aura besoin d'un exploit également ce soir pour se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des Champions face à Naples en barrage retour. Le match, comme pour le rugby, a démarré il y a quelques minutes. Enfin, cette reconversion télévisuelle pour Jean-Pierre Raffarin, retiré de la vie politique, l'ancien Premier ministre va devenir l'un des chroniqueurs de la nouvelle émission dominicale de Laurent Delahousse sur France 2.
France Info. Les informés, Guillaume Cahour.
Suite et fin des informés de France Info avec Franck Boisise, Libé, Marion Mourgue, Le Figaro, Christophe Madrol, élu de l'Union des démocrates et écologistes et Aude Rossigneux, journaliste politique. Les Français donneraient donc de moins en moins de pourboires pour diverses raisons dont nous allons parler dans les minutes qui viennent. L'Union des métiers de l'hôtellerie, l'UMI, cherche des solutions pour nous inciter à donner des pourboires. Peut-être pas le pourboire obligatoire, mais en tout cas peut-être pour intégrer le pourboire d'une manière ou d'une autre dans l'addition. Est-ce que vous donnez des pourboires ?
Ah, oui.
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 Aude Rossigneux. Oui. Oui. Christophe Madrol. Alors là, tout le monde me dit oui, évidemment. Ouais, alors, à la radio, c'est
pas,
oui. Hein.
Je le calcule pas par rapport
toujours,
à...
Toujours. Même un café. Quand alors, vous prenez un café, si j'ai pas du tout de monnaie, etc.,
effectivement, je suis du genre, mais soit j'arrondis, soit j'ai pas du tout de monnaie, je me sens super mal si je le fais pas, pour de vrai.
Alors moi, je paye beaucoup en carte bleue et je le donne quand le service est très bon. Parce que,
en liquide, voilà. Et vous, Franck Boisdit ?
C'est plus facile, effectivement, quand je prends un thé dans un bistrot, parce que je le paye avec des espèces sonnantes et trébuchantes, mais quand je sors ma carte bleue et que j'ai plus...
Apparemment, c'est l'un des problèmes majeurs. C'est là le blocage, c'est que nous payons tous de plus en plus en carte bleue et que nous donnons moins de pourboire. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on est moins satisfait du service ?
Parce que le pouvoir d'achat a aussi diminué et qu'on a l'impression que le service est... y compris en France. Donc spontanément, on s'est dit, bon, voilà, on n'a rien à faire. Et que progressivement, on a donné quand c'était très bien fait. C'était pour marquer la différence. Donc c'est vrai qu'à l'inverse des touristes qui, dans leur pays, n'ont pas ce
notamment
système
dans les
français,
pays anglo-saxons, avec le fameux tip d'environ
ça,
15%.
C'est obligatoire.
Obligatoire, ou en tout cas mal vu si on le donne pas.
Bah, c'est quand même que sinon, la personne n'est pas rémunérée si on ne donne pas. C'est la manière de...
Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche alors des représentants de l'hôtellerie ?
C'est une démarche de mémoire courte parce qu'il faudrait quand même que les représentants de l'hôtellerie se rappellent qu'en 2009, on a baissé la TVA sur la restauration, qu'elle est passée de 19 à 5%. Alors on l'a certes remontée un petit peu à 10% aujourd'hui, mais l'affaire nous coûte quand même 2,5 milliards au budget de l'État chaque année.
En échange, ils devaient baisser leurs prix éventuellement, ce qui n'a pas...
Et augmenter les salaires.
Et ça a été assez peu constaté dans les deux cas.
C'est-à-dire qu'ils ont surtout fait de la marge. Donc ils ont restauré leur rentabilité, c'est le cas de le dire, mais ils ont peu augmenté les salaires et ils ont peu baissé les prix.
Ça, on a tous cette conviction-là, mais est-ce qu'il y a des études qui le prouvent ?
Les études montrent que les créations, la Cour des comptes a été particulièrement sévère sur cette mesure, puisque la Cour des comptes a observé que les deux années qui ont suivi la mise en place de cette TVA à taux réduite, on a eu entre 6 et 10 000 créations d'emplois. Quand même pas extraordinaire dans un secteur comme la restauration.
Donc ce que vous voulez dire par là, c'est que c'est une manière d'obtenir une augmentation des salaires sans mettre d'argent en plus pour les restaurateurs.
Non mais imaginez si
au frais du client.
Imaginez si la mesure fait boule de neige. Alors dans les cinémas, on va demander à ce qu'on augmente le pourboire aussi, puis on va moins payer les ouvreuses.
Mais vous avez très bien résumé. En fait, les employeurs de l'hôtellerie et de la restauration aimeraient bien que les clients payent les salaires des employés.
C'est comme ça que vous voyez, vous.
En tout cas,
parce qu'ils disent ça n'aura pas d'augmentation de salaire, d'addition.
Bah, ils font comment alors ?
Je n'en ai aucune idée.
Ils baissent le prix des consommations ? Vous posez une très bonne question.
Voilà. C'est-à-dire que je crois comprendre qu'ils veulent intégrer un système un peu à l'anglo-saxonne, quoi, avec un tip, un pourboire qui est intégré, vous savez, en bas du ticket de caisse, vous marquez, voilà, je donne tant.
Ça revient au même que le système français avec le service.
Une chose est sûre, c'est très confus. Mais qu'ils veulent faire quelque chose pour rendre le métier plus attirant pour les jeunes.
En France, le pourboire, c'est un complément, c'est pas le salaire. Donc, si on dit, c'est ça que je comprends pas, c'est si on rend le pourboire obligatoire, c'est-à-dire qu'on augmente de fait le salaire des employés.
Alors, moi, je vais me faire l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas tout simplement parce qu'en France, on a aussi un problème avec les métiers du service? C'est-à-dire que, un, nous, clients, on n'a pas forcément beaucoup d'estime pour ces métiers-là, et deux, quand on exerce ce métier-là, on n'a pas forcément non plus beaucoup d'estime pour ce métier-là, et donc on fait la tronche, quoi. Et donc on n'a pas de pourboire.
Avant
c'est le but.
Avant de venir vous voir, j'ai buvé un verre au bar des ondes, connu de la maison de la radio, et puis le serveur, je lui disais, voilà, on va débattre de ça, il me disait, vous savez, moi, si on me dit bonjour, si le client me dit bonjour, s'il me dit au revoir, s'il est sympathique, et puis je suis sympathique avec lui, souvent il me laisse une petite pièce. Donc moi j'ai toujours des petites pièces dans ma poche, de mon costume, et puis quand je bois un café, je laisse toujours un petit peu, et puis voilà, je pense qu'il faut être, zen par rapport à ça, il faut être citoyen. Et j'ai pas envie de me prendre la tête non plus avec ça.
Avec quoi ? Avec le pourboire ?
Non, avec le fait de pouvoir, c'est ça.
Et je lisais le témoignage d'un serveur qui, lui, a travaillé aussi aux États-Unis et il dit, en fait, c'est très désagréable, ce petit ticket de caisse sur lequel on marque combien on donne les clients. Il n'aimait pas du tout cette approche-là.
Mais c'est extrêmement subjectif. Oui. C'est-à-dire que si on marque combien on veut mettre, ça veut dire qu'il y aura des variations et finalement qu'il y aura une injustice par rapport à une rémunération qui est décidée à l'avance et qui fait que la personne qui assure le service sait exactement comment elle va gagner à la fin du mois.
Oui, puis surtout ce qui est pervers, c'est que les impôts calculent en fonction de ce que vous devriez laisser et pas en fonction de ce qui est laissé. Et donc si vous laissez que 10% de l'addition à une serveuse, elle sera quand même taxée sur le 15% que vous lui aurez laissé. C'est ce qu'expliquait l'Office du tourisme américain. Donc c'est quand même, c'est super pervers. C'est-à-dire que c'est pas du tout encadré. Pour le coup, là, c'est du libéralisme sauvage, quoi.
En tout cas, ce débat-là, il souligne aussi un autre débat qui est pourquoi ce métier n'attire plus ? Pourquoi ce métier de serveur dans la restauration n'attire plus ?
c'est un mélange de difficultés.
Est-ce que c'est
un problème d'argent? Bon, il est physiquement assez éprouvant. Les amplitudes horaires sont quand même assez grandes. Et les conditions de travail, je crois qu'on a eu quelques dossiers quand même, notamment dans la restauration et dans la grande restauration, les conditions de travail sont assez
mélanges. Mais elles ne se sont pas dégradées.
Non, mais elles n'ont jamais été. C'est pas le club méditerranéen.
Oui, d'accord.
Non, c'est mais bon, même au club, c'est fatigant.
Il y en a plein des métiers comme ça. Il y en a plein des métiers comme ça.
Vous avez grosso modo deux métiers qui ont du mal à recruter, enfin deux branches qui ont du mal à recruter dans ce pays aujourd'hui, c'est le bâtiment, les travaux publics et l'hôtellerie. Restauration, c'est quand même pas pour rien, ce sont les métiers les plus éprouvants, sur lesquels les rémunérations sont assez basses et les perspectives de carrière pas franchement épanouissantes.
Et les responsables de l'hôtellerie, eux, se posent la question de pourquoi cette équation, alors qu'on a presque 3 millions de chômeurs.
Peut-être
parce
justement.
Qu'il y a des gens qui ont envie peut-être de faire autre chose dans leur vie que d'être serveur ou serveuse, et que c'est souvent des, effectivement des jobs d'étudiants, parce que tu disais très bien, il y a une évolution de carrière qui est quand même modérée, sauf effectivement quand on fait une école hôtelière, et dans ce cas-là c'est un truc qu'on voulait faire, et après on devient chef de rang, maître d'hôtel et tout ce qu'on veut, mais au départ être serveur dans une brasserie, c'est pas forcément le rêve de toute une vie pour plein de gens.
Merci à tous les quatre, les informés de France Info avec Franck Boisise, Marion Mourgue, Christophe Madrol et Aude Rossigneux ce soir. On se retrouve demain à 20h, dans quelques instants, la météo et les infos.